fond de la mine en train de pousser les wagonnets, plein de belles et bonnes choses que nous vous mettrons plein les oreilles dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, pauvre France, suite à l'occasion de la découverte de la pauvreté en France et surtout de ce million d'enfants, un million d'enfants vivant en dessous du seuil de pauvreté, ça étonne beaucoup, ça surprend beaucoup, alors on vous offre une petite excursion en dessous de la France d'en bas pour les oreilles de la France d'en haut. Si vous faites partie des bobos gavés indignés par cette pauvreté, insurgés devant ce million d'enfants découverts brusquement en dessous du seuil de pauvreté, eh bien, il vous suffit d'écouter ce reportage jusqu'à 18h dans la base où j'y suis, à Roye, dans la Somme. C'était il y a 2 ans, on avait rencontré ces stagiaires, et c'est tellement bien fait, tellement réaliste, que vous pourrez dire que vous y êtes allés. Mais, auparavant, un petit document. Quel lien y a-t-il entre le chômage et, justement, ces enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté? Lorsque des petits-enfants sont en train de glisser sous la barre du seuil de pauvreté parce que leur papa perd son emploi et que le papa se bat pour défendre ses droits, et non seulement ses droits, mais aussi ceux des autres papas salariés virés, qu'est-ce qu'on fait de ce papa? Comment on le traite? Eh bien, on l'arrête et on l'envoie au commissariat et on fait des perquisitions dans sa maison. C'est arrivé, c'est vrai, c'est un cas flagrant et supplémentaire de pénalisation du syndicalisme, et c'est ce qui est arrivé à Pascal Ducrot. Mais si, Pascal Ducrot, qu'on avait rencontré avec Thierry Scharf à Haubourdin, cette filiale d'Unilever qui a viré tout ce petit personnel superflu parce que ça rapportait pas assez aux actionnaires. Pascal Ducrot, qu'on avait retrouvé à Valenciennes quand notre président de la République est venu voir la France d'en bas. Vous vous souvenez? Eh bien, voilà, hier, Pascal Ducrot était au commissariat. Alors, on va le retrouver, on va avoir des précisions et des nouvelles. Et puis, ensuite, quelques messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Et puis après, une petite excursion dans la France, en dessous de tout.
Allô?
Allô?
Oui?
Allô, allô, Pascal?
Non, c'est Régis, là.
Oui, oui.
Pascal, il y a France 3 qui est en train de l'interviewer.
Régis, oui. Est-ce que tu peux me résumer l'histoire Unilever en quelques mots?
L'histoire Unilever, bah oui, ça c'est facile. Le Trust Unilever, qui avait décidé de faire encore plus de profits, a décidé l'année 2000 de fermer son usine de Bourdin et de licencier 450 salariés. En fait, c'était l'année où c'était l'année du siècle au niveau des profits. Et l'année du siècle au niveau des profits, ils ferment l'entreprise. Donc il y a eu une lutte qui a duré 9 mois et demi, à l'issue de laquelle un repreneur s'est réinstallé sur le site et a réembauché 189 salariés. Ce repreneur, il a piqué 7 millions d'euros dans la caisse, puis il est parti en Espagne. Un nouveau repreneur, Coventry, a repris le site et lui a pillé les 3 millions d'euros qui restaient encore et finalement s'est sauvé en Angleterre. Et depuis, les camarades donc qui travaillaient dans cette entreprise se battent pour obtenir un dédommagement pour ce sale coup qui leur a été fait. Donc ils sont en bagarre maintenant depuis plusieurs mois. Ils ont obtenu des congés de conversion, bien sûr, mais ils n'ont toujours pas obtenu un plan social digne de ce nom, et en tout cas aucun dédommagement pour le fait qu'ils aient été licenciés alors qu'on leur avait garanti que la société Bilor, c'était leur avenir et qu'ils avaient à s'inquiéter de rien, et que tout le monde, que ce soit le gouvernement de l'époque, que ce soit le préfet, que ce soit le Vert, tous les instances leur avaient dit vous n'avez pas à vous inquiéter, ce qui compte c'est la réindustrialisation. Et ben le résultat il est là, il y a 189 gars et femmes aujourd'hui qui sont au chômage.
D'accord, alors c'est la raison pour laquelle vous étiez allé voir le président de la République quand il est venu à Valenciennes, hein?
Voilà.
Et Pascal Ducrot avait réussi à approcher
Chirac, oui.
Difficilement.
Oui. Avoir d'ailleurs été jeté à terre et menotté à cette époque-là, une première fois.
Voilà. Donc, et le président de la République lui avait dit qu'il était au courant du dossier.
Oui.
Et qu'il allait donner une suite.
Oui.
Voilà. Et alors, la suite, ben la voilà.
Ben la suite, la voilà. Je te passe Pascal.
Oui, Pascal.
Oui.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que t'as fait encore comme bêtise?
Ben, j'ai pas fait de bêtises. Hein. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'on a été traités comme des criminels, alors que on défend notre emploi et notre travail, quoi. Et ça, on est considéré comme ça, les syndicalistes, c'est ça maintenant.
Raconte-moi ce qui s'est passé.
Ce matin, à 7h30, 4 personnes sont rentrées chez moi pour faire une perquisition de haut en bas. Et puis, ils m'ont emmené parce qu'il y avait une mise en garde à vue prévue.
Prétexte, motif?
Les chefs d'accusation, c'est casse, vol dans l'usine et manifestation. En fait, c'est ça. Parce qu'on nous pose des questions sur les manifestations.
Tu es resté combien de temps?
Je viens de sortir à 5h30, je suis rentré à... Ils sont rentrés chez moi à 7h30, à 8h30 j'étais au commissariat pour déposer plainte. C'est la preuve qu'ils n'ont rien trouvé, quoi. Sinon ça dure plus longtemps. Et donc je viens de sortir à 5h30 à peu près, 5h30, 6h moins le quart. Hein.
Alors il y a d'autres salariés ou ex-salariés qui ont été arrêtés aussi?
Il y en a 4 qui ont été de la même manière jeudi dernier. Et on est 2 aujourd'hui à être appelés. Aujourd'hui c'est 2 syndicalistes.
D'accord. Alors comment tu interprètes ces poursuites et ces pressions?
Bah, je vois que pour nous c'est facile d'inquiéter, et je vois que de l'autre côté on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas le Bilor, les Coventry, on ne sait pas où est-ce que ça en est, quoi. Donc pour nous c'est facile, on vient chez nous, nous on a une adresse, on a une identité, donc c'est facile de venir chez nous, quoi. Et donc ils font le côté le plus facile. Et ils nous reprochent d'avoir manifesté dans les magasins, que les magasins d'Auchan Anglo par exemple réclament 14 000 euros de préjudice.
Qu'est-ce que vous aviez fait dans les magasins?
On a sorti simplement les produits de Levert, des rayons.
Tout ça, c'est à la demande du liquidateur, hein?
Ah, tout à fait, ouais.
C'est toujours Monsieur Malfaisant.
C'est Maître Malfaisant, oui.
Maître Malfaisant, liquidateur.
Liquidateur, oui.
Voilà, c'est son nom, hein?
C'est son nom, une fois de plus, oui.
Ouais.
C'est son nom, et lui, il recherche des responsables et considère que c'est les délégués qui sont responsables. Alors que nous, on a toujours crié haut et fort qu'il fallait sortir de l'usine pour manifester, se faire entendre de l'extérieur et expliquer notre situation.
Alors là, ce soir, il y a une manif?
Oui, il y a une manif de profs qui risque d'arriver dans le boulevard de la Liberté où on est situé, pour venir nous soutenir. Mais je pense que les forces de l'ordre vont les empêcher d'approcher. Parce que le circuit habituel, c'est pas le boulevard de la Liberté.
C'est l'impasse de la Liberté, là, ce soir. Hein.
Voilà, ouais, exactement. Hein. Ouais.
Bon, Pascal, courage, ouais. Courage.
Merci.
Salut,
merci.
À bientôt.
À bientôt.
Dans un numéro du Monde, 18357, apparemment du 1er ou 2 février 2004, on trouve la somme d'argent public détournée pendant la période des emplois fictifs par Juppé. On estime cette fraude à 2,4 millions d'euros. Dans le même numéro, on trouve une condamnation d'un internaute coupable d'avoir vendu des MP3 pour une somme totale de 5 511 euros. Le bonhomme est veuf avec 3 enfants à charge. Bon, on fait une petite comparaison. Alain Juppé, 2 400 000 euros à l'État, 18 mois de prison avec sursis. L'internaute, 5 511 euros aux maisons de disques, 6 mois ferme. Alain Juppé, vol pour l'État, jugement trop sévère, intervention sur TF1. L'internaute, il pique les sociétés privées, bon jugement, ferme ta gueule. Alain Juppé, consternation, campagne de soutien. L'internaute, bien fait pour sa gueule, rien. Ce qui est marrant, c'est qu'un média ne s'est amusé à de tels reprochements. Bah, dommage, parce que c'est un instructif.
C'est une honte. C'est vraiment une honte. Non seulement il y a des gens qui sont pauvres, mais en plus, ils font des enfants. Et là, je pense qu'avec le gouvernement qu'on a, on devrait quand même arriver à trouver une solution pour faire en sorte que les pauvres ne se reproduisent pas, quand même. C'est quand même pas propre. En plus, même si même les médias s'en aperçoivent, mais alors, je veux dire, où est-ce qu'on va?
Oui, Daniel, bonjour. J'écoute ton émission, là, sur les gens de roi dans la Somme. Non mais c'est incroyable, quelle humiliation, quel théâtre, tout ça pour avoir 2 francs 6 sous, mendier son travail, où est-ce qu'on en est réduit? Moi, j'ai honte.
Je suis une ancienne DRH, aujourd'hui au chômage, donc j'écoute l'émission régulièrement. Je voulais vous dire que c'est la vie qui éclate dans votre émission avec ses hauts et ses bas. Moi, je suis plutôt dans le bas et quand j'écoute l'émission de ce soir, j'ai été recruteur pendant 15 ans, donc je sais de quoi je parle. Et je me dis que bah, si tous ces gens que j'écoute là avaient simplement les clés et les codes, ce serait plus simple. Et si quelqu'un me le demandait, je les donnerais. Voilà. En tout cas, merci pour vos émissions. Et puis continuez parce que hier une émission sur le forgeron, aujourd'hui sur Roi, c'est ce qui fait notre existence à tous, en tout cas qui devrait la faire, voilà. Merci et continuez, au revoir.
Salut Daniel, dis-moi comment qu'on fait quand on a deux places pour voir Dieudonné et que je viens d'apprendre par la revue de presse, Saint-Père, que ben, c'est annulé ou je sais pas quoi. Bon ben je sais pas, moi Dieudonné c'était un truc qu'on voulait faire avec ma femme. Faut se retourner contre qui? Je dois taper en justice qui? Je sais pas, c'est pas lui parce que bon c'est évident, il se fait piège, comme on dit. Mais bon, je sais pas. Allez, ciao les gars.
Oui, bonjour, c'est Fadila de la Martinique. Et je vous appelle, donc votre émission passe ici à midi en heure locale. Donc je vous ai appelé pour l'émission d'aujourd'hui. Donc ça a été aussi mon cas, donc la dame qui parlait d'en haut de l'échelle et qui est descendue très bas. Donc encore merci, c'était une émission qui était très touchante. Merci encore, au revoir.
Oui, bonjour, ici c'est le collectif CGT Privé d'emploi de Nantes. On essaye d'informer et de réunir les privés d'emploi par rapport à tout ce qui se passe depuis quelques temps. Et à ce titre-là, on invite l'ensemble des chômeurs privés d'emploi précaires le 26 février 2004 de 10h à 12h à la Maison des Associations, salle A, 10 bis, boulevard Stalingrad à Nantes, à discuter ensemble pour faire des démarches collectives, pour mener des actions et également ensuite aussi en parallèle mener des actions juridiques par rapport à la CEDIC. Donc nos coordonnées téléphoniques, donc c'est le 02 28 08 29 60. Nous situons à la Maison des Syndicats, 1 place Gare de l'État à Nantes, c'est à côté de République. Et donc là, on va essayer d'avancer. Et donc, nous avons encore de nombreux coups de téléphone pour essayer de faire des démarches collectives. Merci à tous. Au revoir.
Bonjour, c'est Narimane de Nice. Ce message s'adresse à Nice et à ses environs. Jeudi 19 février à 20h au Centre Universitaire Méditerranéen, le CUM 65 Promenade des Anglais à Nice. Nous avons le plaisir d'organiser une conférence débat avec Leïla Chaïd, Michel Warchavski et Dominique Vidal. Venez nombreux. Merci.
Attention, attention. Ceci est un message du ministère de l'Intérieur. Nous vous rappelons qu'il est fortement interdit et déconseillé de vous rendre à l'Arzals 2004, la fête autrement, organisée par la CGT, ATTAC et la Confédération Paysanne, le samedi 28 février 2004 à partir de 14h au centre culturel de Bouxwiller dans le 67 à 40 km au nord de Strasbourg. Nous vous rappelons aussi qu'en vertu de la nouvelle loi sur l'économie numérique, il est interdit de consulter le programme de cette manifestation sur www.cgt67.com. Nous vous rappelons que cette manifestation est à caractère subversif et quasi insurrectionnel, puisqu'il y a le premier festival du film social en Alsace avec Marcel Tria et SOS Hôpital, Moulinex, la mécanique du pire de Gilles Balbastre, Rêve d'usine de Luc de Caster en présence des trois réalisateurs. Il y a aussi un marché bio et de produits issus du commerce équitable, ainsi qu'un espace littérature avec une dizaine d'auteurs dont Gisèle Ginsberg, Patricia Latour, Abdel Mabrouki, François Desanti, Alain Bire et Roland Pfefferkorn. Nous vous rappelons qu'il est fortement déconseillé d'assister aussi aux spectacles gratuits qui seront donnés par la compagnie Les Pêcheurs de Rêve, deux spectacles de cirque, par la compagnie Mille Pages, Les Contes du Renouveau, ainsi qu'un cabaret-concert le soir avec Katzayammer, un groupe de la région strasbourgeoise, et une machine à remonter le moral, le Prolet Tanz Club.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis. flight number 2 arriving from
De toute façon, à chaque fois qu'on reprend un coup, on se relève et on recommence. Hein. De toute façon, faut pas se laisser abattre. Hein. Quand on a trois enfants, comme moi j'ai trois enfants, on peut pas se dire « Oh, je suis une victime, je vais me laisser aller ». On n'a pas le droit. Il faut penser aux enfants. Ça, on n'a pas le choix. Voilà.
Y a-t-il quelqu'un pour l'emploi que j'ai demandé?
Oui, il y a moi.
Aujourd'hui, masque à gaz et lunettes de plongée, nous allons plonger en dessous du seuil de pauvreté. Nous allons exactement à Exclulande, là où vivent ou survivent 1 Français sur 10, 6 millions de Français, dont 1 million d'enfants. Oui, un racisme sans race. Exclulande, c'est Soweto, c'est un ghetto, sauf que ces gens-là, on ne les entend guère et on ne les voit pas. Exclulande, c'est No Man's Land, disparu des écrans. C'est vrai, chez nous, la misère, il y en a moins qu'ailleurs. C'est vrai, chez nous, la misère, il y en avait plus avant. Mais peut-être que la misère, la vraie, la grave, c'est de voir et de savoir et de laisser faire. Peut-être que la misère, la vraie, la grande, c'est quand j'étais petit dans le poste avec leur chapeau, les bons hommes politiques promettaient de réduire les inégalités et de répartir la richesse. Il y a guère de temps, il y a 20 ou 30 ans, le chômage était une injustice. Aujourd'hui, c'est un malheur parmi d'autres. En 1967, Monsieur Georges Pompidou, qui était Premier ministre du général de Gaulle, affirmait que si le nombre des chômeurs dépassait 300 000, eh bien ce serait la révolution. Et depuis, eh ben, nous avons accepté, nous nous sommes adaptés, nous avons avalé, plié, cassé, classé, incliné, retourné, flexibilisé, fatalité, banalité. Et aujourd'hui, notre dressage est accompli. Celui des exclus comme celui des inclus. Car cette exclusion, comme dit Jean Maisonneuve, cette exclusion n'existe que parce que nous le voulons. L'exclusion, dit-il, durera aussi longtemps que nous ferons comme si nous n'y étions pour rien. Des jours entiers, nous avons partagé, parlé, écouté des chômeurs dans un stage de réinsertion. C'est dans la Somme, exactement à Roy, mais ça pourrait être n'importe où ailleurs dans notre belle France. Quelques instants avec ceux qui se battent, se débattent, glissent, se rattrapent à la pente, dans l'indifférence quasi générale, en attendant que la peur change de camp. Mord la main qui te nourrit.
Rentrez.
Bonjour.
Bonjour.
Asseyez-vous. Si. Je viens de vous présenter pour un stage.
Oui. Présentez-vous.
Oui. Bah, j'habite pas loin, j'habite à Roux.
Oui.
Moi, je sais pas, moi. C'est pour faire un stage d'une semaine avec de la formation.
Oui, vous avez déjà fait un stage dans mon entreprise?
Oui, en espace vert.
Oui. C'est tout. Et votre motivation?
Motivation.
Vous avez une motivation, non?
Là? Si, l'espace vert, c'est tout.
C'est tout. Vous avez fait ça?
Oui. J'adore faire ça.
Ouais. Bon, merci. Je vous appellerai. Okay. D'accord.
Au revoir. Je vois Claudine qui se marre. Effectivement, ce matin, on avait dit, quand on a un patron qui lui dit bon ben je vous appellerai, je vous téléphonerai.
Je vous écrirai, voilà. Ouais, c'est ça.
C'était quoi le truc?
Ça voulait dire bien, c'est pas la peine de rêver.
Mais bon, je me suffis plutôt.
Un stage à Roy, dans la Somme, un stage de réinsertion comme il y en a beaucoup. Celui-là, c'est notre ami Eric Coquillat qui en est le formateur et qui a attiré notre attention sur la façon dont se déroule ce genre de stage. Là, c'est un sketch que jouent les chômeurs qui est, vous avez compris, l'un fait le patron, l'autre fait le demandeur d'emploi. Le patron, c'est l'employeur maintenant. On dit employeur, on dit plus patron. Détail très important. Et le stagiaire, le demandeur d'emploi, c'est souvent un demandeur de stage. Il s'agit d'apprendre à se présenter correctement, à parler comme il faut, bref, à se plier à... on va dire s'asservir, ah, vous allez dire que j'exagère. À partir de quel moment la formation devient du dressage? Eh bien, c'est une question à laquelle nous ne répondrons pas, mais que nous soulevons. La vraie question, eh bien, c'est de s'intéresser à qui sont ces chômeurs. On parle du chômage, on parle des chiffres du chômage qui montent et qui descendent, on parle de ces gens-là, mais qui sont-ils? Aujourd'hui, deux portraits. Celui de Jesse, c'est pas son vrai nom, mais il préfère qu'on l'appelle comme ça. Et celui de Sylvie, c'est son vrai nom, et c'est bien comme ça. Ils sont là, dans ce stage. Ils sont, ces gens-là, comme on dit, sont nos frères humains, sont nos compatriotes. Ils vivent près de nous. Ce qui est formidable, c'est qu'on n'a plus besoin, comme jadis, de hautes murailles, de relégations, de zones pour mettre à l'écart les populations dangereuses. C'est une très très grande réussite que nous arrivions, grâce au principe d'individualité, grâce au principe de différence, à cette formidable indifférence qui nous fait chaque jour un peu mieux accepter les inégalités. Portrait de Jesse.
J'ai été abandonné. J'étais abandonné. Mon père, il m'a pris à l'âge de 6 mois pour me mettre avec ma grand-mère. Et puis, depuis, j'ai vécu avec ma grand-mère jusqu'à l'âge de 25 ans.
Et tu sais faire les 4 opérations?
Difficilement, mais bon, les divisions, j'y arrive. Les plus, j'y arrive. Mais... les fois et les moins, bon, les moins ça va un petit peu, mais les fois j'arrive pas.
Les fois, les multiplications.
Ouais. Les multiplications, ouais.
5 fois 6.
30.
Alors tu vois, 6 fois 7.
Je sais pas.
Ah toi, il faut de l'espace, hein. T'es baraqué, mon vieux, il y en a un paquet, hein. Combien tu pèses?
100 kilos.
100 kilos pour 1m77.
Ouais.
Donc, il faut de l'espace, toi. Donc, les espaces verts, c'était bien?
C'était très bien. Puis après, j'ai travaillé chez Delisser, chez S Logistique.
Qu'est-ce que tu faisais là?
Chez S Logistique, préparateur de commandes, mais bon, je préparais pas. Moi, je sortais les poubelles. Je mettais les poubelles, je vidais toutes les poubelles pour les mettre dans les conteneurs, quoi. Puis chez Delisser, j'ai fait de la pâte pour les céréales.
Et ton dernier boulot, ça remonte à quand?
Il y a pas si longtemps que ça, oui, 2-3 jours.
Non, mais ça c'est des contrats très courts. Alors c'est quelques jours, quelques
matinée, journée. Parce qu'en rassemblant tout, on dit qu'on a travaillé tant de temps, et puis bon, en fin de compte, c'est 1 heure, 2 heures, ou des matinées. Ça peut être une journée, ça peut être deux. Et une seule fois, j'ai eu un contrat d'amour. Moi, je suis inscrit à toutes les boîtes d'intérim. Il y a Deco, VIRBI, Synergie, Manpower, Agio, puis Supplé.
Et ici dans le patelin, une petite ville comme Roy, il y a 5 boîtes d'intérim.
Ouais, ça, ouais.
Et tu passes ton temps à aller voir s'ils ont du boulot, tu les appelles avec ton portable, et le portable, il sert à ça.
Sert pour avoir du boulot, mais bon. Je vois que quand ils nous appellent pour nous dire si on veut travailler en clariste, on n'a pas le permis. Alors.
Clariste, c'est quoi?
Clariste, conduire un Fenwick.
Ah, cariste.
Un cariste.
Ah, il faut que tu aies le permis pour cariste.
Ouais. Mais je voudrais se passer mon permis de poids lourd, moi. Pour conduire des camions.
Ah, ça t'ira bien, poids lourd, hein, avec ta stature. En ce moment, qu'est-ce que t'as comme revenu?
Rien. Rien du tout. J'ai mal fait mes papiers. J'ai aucun revenu à part ma copine Isabelle, quoi.
Elle bosse.
Ouais, elle bosse, elle.
Donc, tu vis avec elle, comme ça, ça te permet de tenir le coup?
Ouais.
Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Qu'est-ce que t'aimes regarder à la télé?
Des films de violence. Films de violence et puis des très beaux films. Des films comme, par exemple, avec Bonfils, Louis de Funès, ou Le Château de ma mère et puis La gloire de mon père. C'est beau, ça, comme film. Et puis faire ma vie comme une famille. On voit souvent la télé, quoi. Ils sont ensemble, ils vivent heureux. C'est ça que je veux. Moi, je veux avoir c'est un boulot, une maison, un foyer, puis ma famille, mes gosses, puis ma femme. C'est que ça m'arrive un truc, c'est comme certaines personnes qui perdent la mémoire d'un seul coup.
T'aimerais ça?
Ah ouais. Comme celui qui a perdu la mémoire et puis qui maintenant il est champion du monde de golf.
Il y a un gars comme ça?
Ah oui, j'ai vu ça à la télé dans les photos.
Il a tout oublié, il a fait une page blanche.
Tout oublié, puis bon, il s'intéressait pas avant du tout au golf, quoi. Et puis comme il a dû réapprendre à lire, écrire, marcher, puis reconnaître sa femme, se remarier. Il s'est mis dans le golf et puis il est devenu champion du monde de golf. Mais tout son passé, toute son enfance, c'est parti. Il ne se rappelle plus du tout.
Est-ce que tu voudrais, toi?
Ah oui. Comme ça, je suis un peu que ça me fera plus mal.
T'es très jeune et tu voudrais déjà remettre le compteur à zéro.
Ah oui. Recommencer une vie nouvelle. Plus avoir d'angoisse, plus rien. Faire ma vie, puis c'est tout. Ouais. De part, je voulais être bûcheron dans les Ardennes.
Ah, tu voudrais être bûcheron dans les Ardennes? Ah, bah ça doit être possible, ça, non?
Ouais, mais maintenant, ça marche à la tronçonneuse, ça marche plus à la hache.
Ça, tu voudrais que ce soit toujours à la hache?
À l'ancienne mode. À la scie à main et puis à la hache.
Et tu veux en chier, quoi. Il faut que ce soit dur, hein. Un ours, un bestiau.
Le seul problème, je ne sens pas ma force. Ça, c'est le seul problème que j'ai. Je peux attraper n'importe quel poignet pour rien que c'est amusant. Le poignet va casser tout de suite.
Ouais.
Y a-t-il quelqu'un pour l'emploi que j'ai demandé?
Oui, il y a moi.
On rigole. À la question, y a-t-il quelqu'un pour l'emploi que j'ai demandé? Celle qui répond, ben oui, il y a moi. C'est une copine. C'est une stagiaire aussi. C'est une chômeuse aussi. De patrons intéressés par ces chômeurs-là. Il faut bien dire qu'il y en a guère, il faut bien dire qu'il y en a point ou presque point. Bien sûr, il faut pas désespérer les 6 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qu'ils soient chômeurs ou précaires ou sortis totalement des écrans. Alors voilà, c'était le portrait de Jessie. Un autre portrait, une autre personne rencontrée dans ce stage, donc qui se déroule à Arrois dans la Somme. Elle s'appelle Sylvie. Et là, elle fait à son tour ce que j'ai appelé le théâtre de l'emploi, c'est-à-dire ce petit sketch où l'un des stagiaires fait l'employeur et l'autre, le stagiaire, fait le stagiaire.
Nous irons tous aux assez du pointé sans boulot.
Entrez.
Bonjour madame.
Bonjour, c'est Mélanger, directrice. Asseyez-vous.
Alors, vous venez pourquoi?
Je viens pour la place de vendeuse en boulangerie-pâtisserie.
C'est un stage en fait, c'est ça? Alors, pourquoi vous voulez faire votre stage chez nous?
Parce que j'ai déjà fait de la vente pendant 3 ans en boulangerie-pâtisserie et je voudrais bien, comme je connais un peu déjà le métier, je voudrais bien le refaire, quoi.
D'accord. Vous avez des problèmes avec l'euro, avec la nouvelle monnaie qui vient d'arriver? Vous savez bien vous débrouiller?
Oui, ça va, je...
Il n'y a pas de problème.
Oui, ça va.
Ok, d'accord. Ah, vous savez prendre des décisions? Si par exemple une collègue n'était pas là, est-ce que vous saurez prendre sa place?
Ben oui, si elle m'explique avant le travail, il n'y a pas de problème.
Hein. Vous n'avez pas de problème avec les autorités? Parce que c'est vrai que quand vous allez faire votre stage, vous allez avoir quelqu'un qui va être toujours sur vous, qui va vous apprendre le travail, qui va vous surveiller. Alors, vous n'avez pas de problème?
Non, j'ai pas de problème. Au moment où on peut faire une remarque, je la prends et... Non, pas du tout. Je prends bien les remarques et puis je fais attention de ne pas refaire l'erreur une seconde fois.
D'accord. Okay. Il y a longtemps que vous n'avez pas travaillé?
Ça fait 5 ans.
5 ans. Ok. Quand vous aurez fini le stage, vous voudrez continuer dans cette branche ou c'est juste pour le stage?
Oui, bah, bien sûr.
Oui,
si le salaire il est bien par la suite, pourquoi pas?
Qu'est-ce que vous pensez avoir comme salaire quand, si jamais...
De toute façon, je ne me fais pas d'illusions, hein, c'est la base du SMIG. Hein. Mm-hmm.
Vous savez qu'on fait plus de 35 heures par semaine. Dans une boulangerie, les horaires, c'est 8 heures, midi, on va dire, 2 heures, 19h30. Ça vous dérange pas trop?
Ben non, je sais qu'en boulanger-pâtisserie, on travaille même le week-end. Hein, mm-hmm. Qu'on n'aura que des jours de repos dans la semaine.
Oui, hein. Vous allez récupérer plus tard, en fait.
Voilà.
Bon, okay. Vous avez des enfants?
Oui, une fille de 17 ans, donc j'ai pas de problème de ce côté-là.
Pas de problème d'horaire, de garderie, tout ça, non?
Non, non.
C'est bien. Bon, bah, c'est bien, j'ai su pas mal de choses. Oui, bah, c'est bon. Bah, écoutez, moi, ça me plaît assez. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Si vous voulez commencer dès la semaine prochaine, ça marche.
Oh, d'accord.
Je vous remercie.
Bravo. Bravo, bravo. Je vois qu'il y a des pros.
Permettre à ceux qui souffrent de découvrir la possibilité d'imputer leur souffrance à des causes sociales et de se sentir ainsi disculpés, faire connaître l'origine sociale collectivement occultée du malheur sous toutes ses formes, y compris les plus intimes et les plus secrètes, c'était les intentions de Pierre Bourdieu lorsqu'il a entrepris avec toute une équipe de chercheurs, sociologues, cette œuvre importante qui s'appelle La misère du monde. Alors, vous avez vu que le sketch auquel on vient d'assister, eh bien a été écrit en fait hein, par deux chômeurs, deux chômeuses en l'occurrence, Sylvie et Nathalie. C'est avec Sylvie qu'on va rester un peu et on va faire le portrait de Sylvie. Elle a bien voulu nous accorder beaucoup de confiance en se confiant à nous.
Changer sa vie, la belle affaire.
la semaine des disparitions. Dans un siècle ou bien deux, j'aurais peut-être oublié. L'amour, c'est une cerise. L'amour, c'est une cerise.
L'amour est une cerise.
L'amour,
l'amour,
c'est une cerise. Ce matin, les oiseaux ont quitté le jardin. L'amour, c'est une cerise.
L'amour est une,
l'amour
cerise.
Est une cerise.
L'amour est une cerise. L'amour, l'amour est une,
c'est une cerise.
Cerise.
L'amour,
l'amour, l'amour,
l'amour,
l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour est
c'est une cerise.
Je suis donc devenue intérimaire, j'ai fait pas mal de boîtes quoi. En tant qu'intérimaire, on va à droite à gauche, ça c'est clair. Et là, j'en ai entendu. Alors c'est incroyable tout ce qu'on entend quand on est intérimaire. Par exemple, au début, bon, j'ai travaillé un mois entier dans une société, ils étaient très contents de moi, ils ont dit, bon, ben, puisque vous travaillez bien, vous avez le rythme, si on a encore besoin de vous, on vous appellera. Et ils m'ont appelé vers le mois d'octobre, novembre, je sais plus trop, et j'étais enceinte. Mais ça, c'est marquant, quoi. J'étais enceinte. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, au bout de, je devais rester chez eux un mois. Au bout d'une semaine, ils me disent, ils me rappellent dans leur bureau, ils me disent, oui, mais vous êtes enceinte, vous êtes plus compétitive, vous êtes plus bonne à rien.
Et c'est là que t'es devenue chômeuse?
Ben, en fait, oui. Je touchais 2000 francs d'allocation pour ma fille. Et j'avais un loyer de 2600 francs à payer. Donc, je pouvais pas le payer, mon loyer.
Tu es élevé seule, ta fille?
Ouais, oui. Donc, je suis...
Le papa...
Non, non. En fait, la réalité, c'est que j'ai 3 enfants de 3 pères différents. Donc, mes femmes ou mon fils, de ça. Ouais. Donc, alors...
Il y a aucun des papas qui revient?
Les 2 premières, non. La 3e, le père, il habite à quoi, à 500 mètres de chez moi, mais bon, au fil des ans, il adorait sa fille et tout, puis maintenant, on n'entend même plus parler que lui, quoi. La seule chose qu'il sait faire, c'est lui raconter tous ses problèmes à la petite, qui est très perturbée, quoi. Donc, je préfère finalement être toute seule à élever mes 3 enfants. C'est beaucoup mieux.
Mais attends, je reviens quand même sur le papa de la première et sur le papa de la deuxième.
Oui.
Les deux gars, ils sont barrés comme ça, ils les ont reconnus ou pas?
Non, non, non.
Ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre. Bah, la première, quand elle est née, le papa, bon, enfin, c'est pas qu'on vivait ensemble, c'est qu'on vivait chacun de notre côté, mais on se voyait régulièrement. Et moi, je lui avais dit que j'étais enceinte. Il était heureux. Pendant 9 mois, il était heureux, j'étais enceinte.
Il travaillait, lui?
Oui, il était pompier. Donc, il était heureux de me voir enceinte, il était tout fier parce qu'il allait avoir une fille, la vie était belle, enfin, tout se passait bien. Et quand j'ai accouché, il est venu voir sa fille, puis il a vu sa fille, il était heureux et tout. Et puis, sa fille, elle devait avoir 3 mois, ouais, à peu près 3 mois. Il est parti, il a dit, non mais finalement, je crois que je peux pas assumer un enfant, je me barre.
Alors voilà pour le premier papa, et ça s'est passé il y a 16 ans, parce que cette petite-là, la première, elle a 16 ans maintenant.
16 ans au mois de mars. Hein?
Et puis alors donc la deuxième, qui maintenant a 11 ans.
A 11 ans. Alors,
rebolote.
Oui. En fait, bon, ça faisait 3-4 ans, j'avais pas de mec dans ma vie, et puis un beau jour, j'ai rencontré un copain, comme tout le monde, après tout, je suis peut-être une maman célibataire, mais j'ai le droit d'avoir des copains aussi.
Bah,
et puis bon, ça a bien marché pendant 2 ans, et puis un beau jour, je suis tombée enceinte. Et pourtant, je prenais mes précautions. C'est peut-être, on se demande d'ailleurs actuellement si ma fille, elle est pas malade à cause de ça. Parce que je prenais la pilule et je suis tombée enceinte quand même. Et comme moi, je suis contre l'avortement, j'ai préféré la garder. Alors, donc, je suis tombée enceinte et j'en ai parlé au papa. Mais par téléphone. Et voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, t'es sûre qu'il est 2 mois, il m'a raccroché, puis il est terminé.
Aïe.
Voilà, je me suis retrouvée toute seule, du coup, avec 2 enfants.
Deuxième
fois.
Alors c'est là que tu allais voir l'assistante sociale.
Voilà, parce que je pouvais pas payer mon loyer, parce que je gagnais 2000 francs. Bon, j'étais enceinte.
Tu touchais 2000 francs.
Oui, je touchais 2000 francs. pour nourrir le bébé que j'attendais et la grande. Donc, et mon loyer était 2600 francs. Alors, j'étais voilà, l'assistante sociale. Et puis, bon, l'assistante sociale, la seule chose qu'elle a trouvé à dire, c'est, j'ai un endroit pour placer la grande et pour quand vous accoucherez, on mettra votre bébé dans un orphelinat. Alors moi, je dis, mais ça va pas, ça. Je dis, c'est pas ça que je vous ai demandé, moi. Je dis, moi, mes enfants, c'est à moi, je les garde. Je dis, c'est pas parce que ma mère, elle m'a abandonnée quand j'étais toute petite qu'il faut que j'en fasse autant avec mes enfants.
Parce que ta mère t'a abandonnée toute petite.
Oui. Quand j'avais 4 ou 5 ans. Elle nous a mis chez une sorte de nourrice. Et puis, elle est partie. Et puis voilà. J'ai pas trop envie de raconter mon enfance.
D'accord, mais enfin, tu l'as jamais revue.
Non.
T'as des frères et sœurs?
Oui, on est 9.
Attends, la maman, elle a laissé tomber les 9?
Oui. Il y en a qui ont été placés à l'assistance sociale, à l'assistance publique, quoi. Moi, je suis la deuxième enfant sur les 9, donc ma grande sœur, elle est dans le coin. Bon, après, il y a eu moi, puis après, il y a les autres, mais les autres, je sais pas où ils sont. Ils ont été adoptés quand ils étaient tout petits, donc je sais pas où ils sont.
Et le papa?
Je préfère pas en parler. C'est trop... Depuis que je viens à ce stage, j'arrête pas de penser à ça, parce que j'ai peur, justement, qu'on me demande de raconter un peu l'histoire de mon père, mais j'ai pas envie. J'avais oublié, puis finalement, c'est ressorti. Donc, je préfère ne rien dire. Voilà.
Abus?
Ouais, entre autres.
Abus sexuel?
Ouais.
Sur toi?
Ouais. Alors, je préfère passer à autre chose.
Alors, l'assistante sociale te dit... On va placer la grande et puis la petite, on la mettra dans un orphelinat. Et là, tu quittes Paris, tu te sauves de Paris et tu viens chez ta grande sœur qui habite ici. Et tu dis, écoute, voilà, il faut que tu m'aides.
Ouais, c'est ce que j'ai fait. C'est ma sœur, bon, elle aussi, elle a été marquée parce qu'elle a vécu la même chose que moi. Donc, séparée de ses enfants, même si elle en a pas, elle est très attachée à mes enfants. Donc, parce que nous, on a subi ça étant petite, il faudra peut-être pas que nos enfants subissent la même chose, quoi. Puis finalement, on s'en sort bien, quoi. Quand on y réfléchit aujourd'hui, on s'en sort bien. Enfin, voilà. Bon, alors, bon, la deuxième est née. Après, on a découvert sa maladie, donc à ma fille, parce que je suis obligée de le dire. C'est ma fille, elle est très malade. Elle est née avec une malformation cardiaque. Elle a subi 3 opérations du cœur. Aujourd'hui, elle a 10 ans. Elle est superbe. C'est vraiment une superbe gosse, mais elle vit à 100 à l'heure, parce qu'elle dit toujours qu'elle n'a pas le temps. Comme si que demain, elle allait mourir, quoi. Une fois, elle m'a dit, de toute façon, demain, je vais peut-être mourir, alors il faut que je me dépêche. Alors une fille de 10 ans qui vous balance ça dans la figure, c'est un peu dur, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, elle a un truc qui la passionne, c'est le journalisme, et donc elle pense qu'à ça. Donc elle pense plus à sa maladie, elle m'en parle plus. On sait qu'il est toujours là, parce qu'elle va voir son cardiologue très souvent. Mais au moins, on n'en parle plus. C'est déjà un soulagement quelque part, quoi. Ah, ça fait du bien.
Ah, elle veut être journaliste.
Ah oui, oui, à fond. Elle est à fond dedans, hein. Des fois, à la maison, elle fait comme si elle fait des interviews. Elle dit, racontez-moi votre vie, ou alors, qu'est-ce que vous avez fait de votre journée? Qu'est-ce que vous pensez d'un tel? Mais c'est infernal, quoi. Parce que, elle essaye de rentrer dans notre tête. Parce qu'elle essaye de savoir ce qu'on a dans la tête, qu'est-ce qu'on pense de machin, et tout ça. Et elle l'écrit. Elle dit, ouais, aujourd'hui, ma mère, elle a fait ça, elle a pensé ça de un tel, mais c'est très mignon, quoi. Et elle fait un journal au centre. Alors donc, c'est bien, moi, je suis assez contente d'elle, parce que maintenant, elle veut faire journaliste, elle sait ce qu'elle veut faire plus tard.
La grande qui a 16 ans?
La grande qui a 16 ans, alors elle veut faire médecine. Et c'est, la médecine lui est venue quand sa sœur est née, quand on lui a dit qu'elle était très malade, la grande, elle a dit, mais moi, quand je serai grande, je serai médecin du cœur. Depuis qu'elle a dit ça, maintenant, elle s'intéresse à tout ce qui est médecine. Tout, même à la télé, elle regarde tout ce qui est sujet à la médecine.
Et la petite?
Ah, la dernière. Alors elle, je sais pas pourquoi. Ah,
comment elle est née? Raconte-moi le troisième papa.
Le troisième papa. Où est-ce que je l'ai rencontré? Je m'en rappelle plus. Ah, quand j'habitais à Mignoulet, j'ai été à une soirée avec des amis. Et puis on est allé au bal et tout ça. Et puis je sais pas, il était là et tout. Et puis il y avait un mec qui m'emmerdait. Alors j'ai été le voir, je dis t'as qu'à dire que je suis avec toi comme ça, il m'emmerde un peu parce que c'était un peu, il était collant, ça m'énervait. Puis j'avais pas la tête à ça. Alors puis de fil en aiguille, on est sortis ensemble. Puis...
Ah, t'es allé chercher un, oui, allé chercher un chevalier servant et pof.
Oui, c'est un peu ça en fait. Maintenant qu'on y pense, c'est sûr même. Et puis bon, de fil en aiguille, on est sortis ensemble et on a habité ensemble pendant 4 ans. Et puis entre deux, la petite elle est née. Mais bon, ça a pas marché parce que moi je suis quelqu'un de dû à ma vie que j'ai eu peut-être mon enfance et tout ça, tous les problèmes qui s'est accumulés. J'aime bien être toute seule moi dans ma vie. Mis à part mes enfants, je supporte pas les hommes dans ma vie. Ça, je sais que ça vient de moi. Je les supporte pas. J'aime bien mener ma vie toute seule. Et comme lui, il était tout mou et moi j'étais speed, on s'est pas entendu à cause de ça. Donc un beau jour, je lui dis, écoute, casse-toi parce que je peux plus. Et il est parti. Et j'étais soulagée. Et puis bon, bah voilà, maintenant ça va faire 5 ans que je suis toute seule là. Et puis
ça fait un peu long ça, non?
Tout le monde me le dit, mais j'ai pas vu le temps passer en fait. Entre le travail, que ce soit à mien ou à mon Didier, plus mes 3 enfants, les journées passent super vite. Alors puis bon, maintenant je viens ici. Bon, c'est encore autre chose, mais ça passe vite aussi.
Puis-je avoir votre nom et votre âge? Êtes-vous marié?
Ouais.
Avez-vous des enfants?
Ouais.
Et je lui ai demandé ses compétences, s'il avait un CV, s'il était autonome, s'il avait le permis de conduire.
Et il l'avait pas. Voilà, ça c'est le dialogue du théâtre de l'emploi entre les chômeurs stagiaires qui font ce stage de 4 mois, un stage d'insertion dont ils attendent certains beaucoup et beaucoup n'attendent pas grand chose. Ils sont dans la galère, dans la survie. Mais il y a des gens comme Sylvie qui se battent, qui gardent la patate, et c'est pas facile. En tout cas, de la part de ceux qui nous racontent leur histoire, il y a évidemment une volonté tout simplement d'exister tel qu'on est, tel qu'on a été, tel qu'on est aujourd'hui, de façon à, bon, après tout, à partager la galère dans laquelle on a été, et puis on est encore, même si Sylvie a vraiment vraiment la patate. Sylvie, 38 ans, 3 enfants, 3 filles, 16, 11 et 7 ans, dont une, la petite de 11 ans, a un problème de santé important, hein. Voilà. Et tes revenus, tu touches de la caisse d'allocation familiale pour 3 enfants, 4
100 francs
par mois.
Voilà.
Il n'y a pas de quoi faire du gras. Non. Donc il faut que tu bosses.
Ah oui. Parce que contrairement à ce qu'on pense, moi, mes factures, faut que je les paye. Comme tout le monde. La seule que je paye pas, c'est les impôts sur le revenu, parce que j'en ai pas de revenus. Mais faut que je paye l'électricité, faut que je paye le téléphone, faut que je paye l'eau, faut que je paye la cantine des gosses, faut que je les rhabille, faut que je les fasse manger. Et je peux vous dire une chose, c'est pas une mince affaire quand même. Parce que moi, je sais que au mois de janvier, quand j'aurai payé mes factures, la nourriture de mes enfants, il me restera, en tout, j'ai compté 880 francs pour finir le mois. Mes factures, tout compris, payées. Alors, avec 880 francs, je suis désolée, c'est pas grand-chose.
Qu'est-ce que t'as fait pour Noël, là, pour les mômes?
Ah, pour les grandes, oh là là, on a fait une petite soirée, comme tous les ans. Parce que moi, je trouve que Noël, c'est pour les enfants. Mais c'est un bon moment de voir les enfants tout émerveillés, se demander...
Ah, tu as fait un sapin?
Ah oui, chez moi, c'est décoré. Mais moi, je me laisse pas déprimer, m'enfoncer, ni rien. Moi, chez moi, c'est décoré. Moi, je vis bien. J'adore la vie. Je veux pas me suicider parce que j'arrive pas à avoir un mec ou avoir un boulot. Non, moi je vis bien. Là, je me suis inscrite au concours d'illumination de mon Didier, donc j'ai décoré mon balcon avec...
Ah bon, il y a... C'est bien ça, dis donc.
Oui.
Alors, c'est le balcon le mieux décoré?
C'est un concours que la ville fait. Alors moi, je me suis inscrite parce que les enfants, ils ont voulu que je m'inscrive. Je me suis inscrite,
ouais.
J'ai décoré mon balcon. Le plus dur, c'est qu'il va falloir les enlever bientôt. Mais enfin, moi je fais tout ça, j'adore tout ça, moi. Je suis très... Mais j'ai pas eu tout ça quand j'étais jeune, donc je le fais pour mes enfants. C'est sympa.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu les mômes, les 3 filles, là?
Oula. Alors Sandra, la grande de 16 ans, elle a eu un portable.
Ah bah dis donc.
Oui, je vous expliquerai après. Un radio réveil, une veste à la mode, rouge, en cuir, là, à la mode, là, puis un petit peu d'argent. Celle de 10 ans, elle a eu un ordinateur de poche, je sais pas comment ça s'appelle, un méga. Elle a eu des rollers et une montre, parce qu'elle a 10 ans maintenant, il lui faut une vraie montre. Et puis elle a eu 2 livres. Et la petite dernière, elle a eu Barbie, alors parce qu'elle a fond dedans. Elle a eu camping-car, elle a eu Barbie laverie, oh, ça, et puis un vélo. Mais en fait, moi, pour que mes enfants ils aient un Noël comme tous les autres enfants, je commence à acheter mes jouets dès le mois d'août. Par exemple, bah, moi je sais que la dernière, elle voulait un vélo. Au mois d'août, j'ai été acheter un vélo à Intermarché. Je l'ai acheté peut-être 700 balles, mais j'ai acheté que le vélo. Puis après, au mois de septembre, j'ai acheté un radio réveil. Et puis ainsi de suite jusqu'à la fin novembre, quoi. Parce que moi, il me faut à peu près 6 mois pour que tout le monde, mes enfants, ils aient les jouets que tout le monde a. Parce que ça coûte cher, les jouets. Alors comme je suis pas très très riche, ben, je m'arrange comme ça. Et je fais ça depuis des années. Et comme ça, ils ont leur compte. Ils sont heureuses. Et tout le monde croit que je suis riche, mais je suis pas riche.
T'es né en 64. T'es né en 64. Et tu me racontes des histoires, on dirait vraiment des histoires du siècle dernier.
Mais j'ai appris à vivre quand j'avais 16 ans. Toutes les années avant, je veux pas m'en souvenir. C'est pour ça que mes enfants, je veux pas qu'ils vivent tout ça. Maintenant, mes enfants, pour moi, ce sont des rois à mes yeux. Même, je leur fais pas voir, parce qu'il faut pas qu'ils sachent. Parce que faut pas qu'ils pensent que tout est facile. Faut pas non plus qu'ils voient une mère déprimée. Moi, j'ai toujours le sourire pour mes enfants. Mais dans ma tête, des fois, je pense à des trucs, comment je vais payer ma facture et tout ça, mais... Et les enfants, ils savent rien. Je veux pas qu'ils savent. Ils vivent sa vie, leur vie d'adolescent, de petite fille, de petit bébé. Ils vont à l'école, ils mangent bien, c'est tout ce qui compte. Je veux pas devenir comme ma famille, mes parents, quoi. Moi, je veux pas devenir comme ça. Puis je veux pas non plus que mes enfants deviennent un peu comme moi. C'est pour ça que ils ont les moyens de faire des études. Allez, foncez les enfants, faites vos études. De toute façon, il y a que comme ça qu'on s'en sortira, peut-être. Ah non, je veux pas que ça soit répété, répété, répété. Oh, j'ai découvert tellement de choses. Je savais pas que la Terre, elle était ronde. Je me souviendrai de ça. Ah ouais, mais quand on y pense aujourd'hui, on en rigole. Mais sur le coup, je rigolais pas. Les gens m'ont dit, mais si, mais tu sais, la France, elle est énorme. La Terre, elle est ronde. Mais j'étais toute émerveillée. Pour moi, c'était une grande découverte. Moi, je savais pas tout ça. Pour moi, c'était le trajet, c'était la nourrice, l'école, la nourrice. Pour moi, il y avait rien qui existait autour.
Élever mes gosses et puis faire ma vie comme une famille. On voit souvent la télé, quoi, ils sont ensemble, ils vivront.
De toute façon, à chaque fois qu'on reprend un coup, on se relève et on recommence. Hein. De toute façon, faut pas se laisser abattre. Hein. Quand on a trois enfants, comme moi j'ai trois enfants, on peut pas se dire « Oh, je suis une victime, je vais me laisser aller ». On n'a pas le droit. Il faut penser aux enfants. Ça, on n'a pas le choix. Voilà.
C'était une rediffusion d'une émission de Là-bas, si j'y suis, donc de janvier 2003, un an tout juste. Merci à Eric, Coquilla, Jessie, Sylvie, Claudine, Marilyn, Angélique, Franck, Fabrice, Nathalie, Cathy et toute l'équipe de la pièce de Mort la main qui te nourrit. À la technique aujourd'hui, Lydvine Caron, Olivier Daligo, au répondeur, Christophe Humbert, assistant, Coy Nguyen et à la réalisation, Antoine Chao. Le répondeur de Là-bas, si j'y suis, le 01 56 40 37 37, le fax aussi 01 56 40 41 07 et l'email de daniel.mermet@radiofrance.com.